Bonjour, vous écoutez Amina Kalash pour l'émission Ça va parler, des infos sans prétention, des chroniques avec passion, c'est notre émission. Ça va parler, ça va parler, ça va parler. Aujourd'hui, je reçois Sarah El-Attar, ingénieure d'affaires, coach en communication et organisation et cofondatrice de l'association Hashtag Ambition pour ne citer que cela. Bonjour Sarah.
Bonjour Amina.
Ça va ?
Ça va bien et toi ?
Ouais, ta journée, ça va, ça se passe ?
Écoute, ça va, ça va, ça va. C'est la course en ce moment, mais que du positif.
Ouais, et il fait beau.
En plus.
Et il fait beau. Du coup, Sarah, tu es jeune villoise de 27 ans. Tu es l'aînée d'une fratrie de 4 sœurs. Bac scientifique avec mention en poche. Tu intègres ensuite les Silva à la Défense, où tu es diplômée en ingénierie d'affaires. Tu es consultante en gestion de projet, en communication et en organisation. En gros, tu améliores la vie des gens ou du moins tu les pousses à adopter un changement positif. Tu es également cofondatrice de l'association Hashtag Ambition et initiatrice du concours Par l'éloquence, un concours ouvert à tous les franciliens, et tu souhaites œuvrer pour la réussite des jeunes et révéler le potentiel de chacun grâce à ce concours. J'ai tout bon ?
Franchement, j'aurais pas mieux fait.
Ah bah super. Parce que de temps en temps, on me regarde, on fait « c'est qui cette personne ?» Tu vois.
Je fais, non, mais j'ai c'est... un peu peur.
Et du coup, tu as toi-même en fait commencé par participer à ces concours, c'est ça ?
C'est ça. Alors en 2016, j'ai participé à un concours d'éloquence. Et bon, je suis pas non plus une timide maladive, mais c'était pas un exercice forcément hyper facile pour moi. Et en le faisant, alors on était plus de 60, je crois qu'on était 70 à s'inscrire. Et donc j'ai passé plusieurs étapes. J'ai été jusqu'au. Je faisais partie des 16 finalistes et je n'ai pas passé l'étape suivante, donc pour passer au 8. Donc j'ai fait 3 tours et ça a été hyper enrichissant pour moi. À tel point que je me suis dit, c'est tellement une belle expérience qu'il faut que je la repartage avec les autres. Et c'est comme ça que j'ai voulu. C'est comme ça que l'idée m'est venue de créer un concours d'éloquence à Gennevilliers.
D'accord. Et ça a pris tout de suite
Franchement, ça a pris tout de suite et puis c'était quelque chose de nouveau puisque notre concours s'adressait aux 16-25 ans. Donc c'était pas un concours qui était organisé dans le cadre d'une faculté de droit ou d'une école d'avocature. Et dès la première édition, on a réussi à... On a Aïda Touiri qui avait accepté d'être marraine du projet et on a reçu à peu près de 150 personnes, il me semble. Dès la première édition, et ça a fait un carton, en fait, dès le départ.
Et du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte, quand tu as participé, justement, et peut-être au fur et à mesure, de l'importance, justement, de l'éloquence, de l'art oratoire,
Non.
qui manque peut-être...
Alors moi, je m'en suis rendu compte plus tôt.
Plutôt, ouais.
Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce sens-là. Via l'événementiel. Mais je m'en suis rendu compte plus tôt que c'était important de savoir s'exprimer. Après, je pense que je n'étais pas la plus à plaindre parce que je lis beaucoup depuis que je suis toute petite. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont vachement sensibilisés là-dessus. Donc, je me souviens que le samedi, on allait à la bibliothèque, on prenait des livres, on avait le droit, je crois, à 4 livres et 4 revues. Et le samedi soir, on avait déjà tout lu. Donc, on avait hâte d'y retourner. Donc, au niveau de la lecture et de l'écriture, je n'avais pas spécialement de difficultés. Mais ce qui a vraiment été un petit peu un choc pour moi, c'est après le bac, en fait, quand j'ai intégré mon école d'ingénieur, je me suis vraiment rendu compte de la différence qu'il y avait au niveau du langage entre nous, ceux qui étaient issus des quartiers, et des élèves issus d'autres milieux sociaux qu'on a rencontrés là-bas. Et c'est une école que j'ai intégrée avec une amie d'enfance et qui est aussi la cofondatrice de Hashtag Ambition.
Inès,
voilà, Inès Lémy. Et en fait, pendant une période, j'avais un complexe à m'exprimer parce que je ressentais clairement la différence entre mes prises de parole et les prises de parole des autres. Et j'ai fait un gros travail où j'avais besoin de me concentrer avant de parler pour bien choisir les mots.
Mais ça, tu l'as senti, par exemple, c'était la façon dont les profs, peut-être, c'est à l'école, ce manquement, ou c'est plutôt dans l'environnement, ou plutôt le côté dans l'éducation, en fait, dans l'enseignement.
En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'était pas forcément avec les professeurs parce que on s'adapte en fait, même depuis la primaire, depuis le collège, on sait qu'on ne doit pas parler En tout cas, on ne parle pas de la même façon, on n'utilise pas le même vocabulaire selon que l'on s'adresse à ses parents, à ses amis ou à ses professeurs. Mais moi, ce qui m'a marqué, et ça peut paraître enfantin ou anodin, c'est que quand on parlait avec des camarades de la promotion en dehors des heures de cours, c'est-à-dire pendant les pauses, etc., et ben, ils parlaient pas comme nous. C'est-à-dire qu'eux s'adressaient à nous de la même manière qu'ils s'adressaient aux professeurs. C'est-à-dire qu'ils étaient très souvent entre un langage courant et un langage soutenu, alors que nous, on allait être entre un langage courant et un langage soutenu avec les professeurs, alors qu'entre nous, on allait être entre un langage courant et un langage familier. Oui, oui. Et où, des fois, on allait faire des petites fautes de français, on n'allait pas forcément y attacher de l'importance parce qu'on était juste en train de parler avec nos amis. Donc, c'est vraiment ça qui m'a marqué et je regrette, bon après je jette pas la pierre, c'est vraiment un constat factuel qu'on n'ait pas été davantage sensibilisé à ça avant, c'est-à-dire au lycée, au collège, et puis je pense que les professeurs, selon les milieux sociaux au sein desquels ils se trouvent, bah, ils vont être moins exigeants, c'est-à-dire que ouais. Moi j'ai jamais eu un professeur qui... avec qui j'ai discuté, enfin qui m'a entendu discuter dans un couloir et qui m'a dit attention ça se dit pas de cette ouais. manière-là, donc c'était plus un regret dans ce sens-là en fait.
Et du coup tu as organisé ta première masterclass en décembre dernier. Et si vous preniez la parole?
C'est ça.
Et c'était lié à, enfin comment t'as eu envie justement de mettre ça en place?
Alors c'est ma première, le 1er décembre c'était ma première grosse masterclass, j'avais fait une masterclass l'année dernière mais c'était plus petit, il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes et la thématique que j'avais abordée c'était concilier vie personnelle et vie professionnelle parce que les gens de mon entourage me posaient souvent la question, Sarah comment tu fais pour t'organiser, tu fais un milliard de trucs et pourtant on réussit à te voir, machin, etc. et tes projets avancent. Donc j'ai eu envie de faire ça, mais c'est vrai que là, c'était ma première grosse masterclass. Suite à mon passage télé, j'ai été médiatisée, du coup j'ai reçu beaucoup de messages et on me demandait souvent des conseils pour apprendre à bien s'exprimer, à garder son calme, à transmettre des messages. Et ça s'inscrivait dans la continuité de mon projet, parce que moi, début 2019, je me suis lancée dans le coaching et le consulting en communication. J'avais pour projet de faire des masterclass, peut-être pas aussitôt, mais étant donné que la conjoncture et que les faits ont pris une autre tournure, je me suis dit qu'il fallait se lancer tout de suite.
Et justement, tu as eu cette envie de mettre à profit cette médiatisation. Pourquoi? Parce que parfois, on peut être médiatisé et se dire « c'est bon, en fait, j'ai dit ce que j'avais à dire, je veux, entre guillemets, disparaître ». Et est-ce que c'est un peu dire que le succès, on va dire, de soi peut ouvrir des portes pour le succès des autres?
Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis, je dis souvent que pour s'élever soi-même, on s'élève les uns les autres. Moi, quand j'ai été sur le plateau, honnêtement, je n'imaginais pas une seconde ce qui allait se passer après. Pour la bonne et simple raison que tous les jours, on voit dans des reportages des anonymes qui viennent témoigner sur des sujets. Et puis,
mais moi, là, c'était pas n'importe quel sujet.
C'était pas n'importe quel sujet, mais on a... En fait, je m'attendais... Enfin, je sais pas, c'est peut-être naïf de ma part, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Ouais. Parce que mine de rien, il y a eu d'autres femmes qui ont pris la parole, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a d'ailleurs eu une femme qui porte le foulard qui a été interviewée sur la même chaîne que moi l'après-midi même. Et il n'y a pas eu tout cet engouement-là. Donc après, ce que j'ai compris en discutant avec des personnes, parce que je n'avais pas le recul d'analyser la situation, c'est que visiblement, ce qui a plu, c'est que je sois en capacité de m'imposer, de défendre mes positions dans le calme.
Oui, ça a été ta façon de parler et de... Surtout de ne pas te laisser faire, mais d'une façon intelligente. Pas rentrer dans un discours violent comme parfois, malheureusement...
Beaucoup de personnes le font, oui, et voilà, pas être dans la confrontation et le clash. Et c'est ce que certaines émissions recherchent parce que ça leur permet de faire de l'audience. Après, j'ai refusé en fait pas mal d'invitations que j'ai reçues par la suite parce que je ne sais pas si je retournerai sur un plateau ou non, je prédis pas l'avenir, ça dépendra je pense, mais j'ai pas pour objectif de sillonner les plateaux télévisés. J'ai pris la parole dans un contexte qui était précis, qui était compliqué. Ça devenait vraiment lourd, en fait, tout ce qu'on entendait suite à la polémique autour de la maman qui a été, je considère, lynchée au sein du conseil régional. Donc je l'ai fait parce que, à mon sens, il y avait une nécessité de le faire. Mais comme je l'ai dit et répété, moi, quand j'étais là-bas, je ne prétendais être la représentante de personne, la porte-parole de personne. Franchement, je n'avais pas cette prétention-là. Après, effectivement, si des gens se sont identifiés, c'est vrai que ça me fait super plaisir. Et si ça a pu avoir un impact positif, ben, j'en suis ravie. Mais je veux pas porter cette étiquette-là ou ce rôle-là parce que j'estime ne pas avoir les épaules pour le faire. Et par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, moi, je voulais vraiment faire ça, faire une masterclass autour de la communication, faire des ateliers autour de ça. C'est quelque chose que j'avais dans ma feuille de route, que j'allais faire plutôt à moyen terme. Mais je me suis dit, bah, étant donné que beaucoup de personnes sont demandeuses, pourquoi les faire attendre et pourquoi pas finalement leur offrir ça tout de suite.
Et ça a été un grand succès en plus.
Ça a super bien fonctionné. Ouais. Et puis là je suis en train de travailler sur la prochaine édition, je suis en réflexion. Ça a super bien fonctionné, j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus. Et de toute façon, le constat reste le même que celui que j'ai fait il y a quelques années, c'est qu'il y a un gros besoin là-dessus. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, en tout cas que moi je n'ai pas appris à l'école. Quand on nous demandait de réciter une poésie ou de faire un exposé devant la classe, à aucun moment on nous briefait, en fait, ou on nous donnait des outils pour pouvoir justement s'exprimer sereinement devant un groupe de personnes.
Ouais, c'est juste la récitation. Ouais. Ouais, moi je le vois avec mon petit frère. Là, il a les oraux. Il a des oraux pour le brevet. Et en fait, si nous, ses grands frères et sœurs, on ne lui explique pas, on ne lui montre pas, en fait, ça les tétanise déjà, parce qu'ils n'ont pas cette faculté, on ne leur apprend pas. Pourtant, il est dans un très bon collège. Et en fait, ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel l'élève est. Et on essaie de lui expliquer qu'il faut parler comme ça, dire comme ça, même sur la gestuelle, que la communication n'est parfois pas uniquement verbale. Et elle est aussi beaucoup la façon dont on se tient, dont on exprime.
70% de la communication, de toute façon, elle n'est pas verbale.
Elle est non-verbale, ouais. Et c'est vrai que ça, moi, je trouve que c'est encore un manquement jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas assez tôt. Même s'il y a eu... c'est vrai qu'on fait de plus en plus de concours d'éloquence dans les écoles, les établissements, etc. Mais au-delà de cet effet, entre guillemets, mode, y a, comme tu disais, un grand besoin, il y a quand même des manquements. Et peut-être surtout dans les quartiers, on va dire, qui sont moins privilégiés.
Voilà. Ouais, et je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais dans la prise de parole, il y a plein de choses qui peuvent être hyper violentes et très mal vécues, d'autant plus quand on est enfant ou adolescent. Déjà, c'est très compliqué de ne pas être en capacité de mettre des mots sur ses idées. C'est-à-dire que... Il y a des personnes qui pensent des choses et qui ont du mal à sortir ça. Et ça, c'est très compliqué à vivre. Il y a ça, d'une part, mais ce n'est pas la seule chose. Ça peut être aussi hyper violent de prendre la parole devant une assemblée qui n'écoute pas et qui discute en même temps.
Oui.
Par exemple, dans le cadre d'un exposé pour un enfant, ça peut être très, très mal vécu. Donc, toutes ces petites choses-là, effectivement, il y a des concours d'éloquence qui se font dans les écoles, mais ça reste encore épisodique. C'est beaucoup plus, par exemple, développé dans les facultés. Donc beaucoup plus dans les facultés que dans les lycées, beaucoup plus dans les lycées que dans les collèges, pardon. Et je trouve que c'est dommage qu'on attende d'arriver à un certain âge pour commencer à aborder ce sujet-là. Moi, j'avais vu un reportage sur des petits stages de vacances qui étaient organisés aux États-Unis avec des enfants de 7-8 ans qui devaient élaborer un projet d'entreprise et le pitcher devant un public.
C'est génial. Enfin, c'est tôt, mais c'est génial.
Donc, ça montre que... voilà.
Ouais, on les sensibilise, en fait, dès le plus jeune âge.
Exactement. Exactement. Ouais. Et comme il n'est jamais... ce que je lisais dans le portrait de Gallo il y a quelques jours, autant il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais autant il n'est jamais trop tôt pour transmettre.
Complètement. Ouais, complètement. Et toi, est-ce que tu as eu des modèles, justement? Parce qu'aujourd'hui, tu fais quand même figure pour beaucoup de personnes de modèles, même si pour toi, ça peut paraître être un grand mot. Mais je pense qu'on est quand même dans dans une société et même un environnement où en fait on se reconnaît. On a besoin justement de modèles et de se retrouver chez des personnes, mais avec le bon message. Est-ce que toi, tu en as eu ou est-ce que tu en as encore aujourd'hui
Alors, quand j'étais petite, déjà, j'étais dans mes livres, donc j'étais un peu déconnectée, je connaissais pas trop les stars, les personnalités, etc. Donc, j'avais pas forcément les éléments pour pouvoir m'identifier ou m'inspirer de certaines personnes.
Moi, je m'identifiais toujours aux héroïnes, c'est souvent des femmes, ouais, dans ce que je lisais, parce que j'étais comme toi, tout ce qui est Star System, c'était pas du tout mon truc.
Ouais.
Mais par contre... J'étais fascinée par les héroïnes, surtout de Jane Austen, parce que bon, souvent on va entendre, ouais, c'est de la littérature romantique du 19e siècle, alors que c'est des femmes, en fait, je me suis rendu compte de ça, très indépendantes,
ouais,
et qui, bah, justement, pour leur société, à cette époque-là, faisaient des choses, mais incroyables, quoi.
Ouais, complètement, je suis d'accord. Bah, du coup, on a ce point en commun. Après, moi, j'ai commencé à m'identifier. Quand j'ai appris certains épisodes en cours d'histoire, donc je suis beaucoup fascinée par des femmes comme Rosa Parks, comme Jeanne d'Arc, comme
des femmes engagées.
Voilà, des femmes engagées. Et après, un peu plus récemment, il y a quelques années, par des femmes forcément comme Oprah Winfrey ou des choses comme ça. Après, je suis aussi fascinée par des femmes comme Sœur Emmanuelle ou l'Abbé Pierre. Donc voilà, ça va vraiment ce qui m'impressionne. C'est la capacité à s'engager, en fait, même au plus haut point, parce que aujourd'hui il y a des personnes, après je jette pas la pierre, mais c'est un constat. Je pense que ce que je veux dire, y a des causes, en fait, à ce que je veux dire que je connais pas forcément. Il y a des personnes, quand elles deviennent célèbres, elles font attention à ce qu'elles disent, ce qui est normal. Je fais attention aussi à ce que je dis et ce que je fais, mais pas de la même manière. C'est à dire que moi, aujourd'hui, du fait que je suis suivie, je me dis qu'il faut que je montre l'exemple, en tout cas, sur un certain nombre de choses. Mais quand je parlais de faire attention, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se censurer, en fait. Qui vont se dire, ouais, alors là, je suis regardée, donc je ne peux pas parler de ça parce que c'est touchy. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais je pars du principe que, surtout quand il y a des choses très graves qui se passent, qu'on le veuille ou non, on a une responsabilité, en fait. Moi, en fait, c'est pas de notre propre ressort. C'est-à-dire que quand tu as une visibilité, tu as de toute façon une responsabilité.
Ouais. Il y en a qui ne veulent pas l'assumer, parce qu'on a déjà eu justement des...
C'est ça, il y a des personnes qui ne veulent pas l'assumer, disent, mais c'est une réalité.
Moi, je n'ai pas à être le porte-parole, c'est souvent ce qui revient de qui que ce soit, et je suis pas le représentant de telle ou telle communauté, telle ou telle religion.
Bien sûr.
Et du coup, en fait, je me détache de ça.
Mm-hmm.
Mais on se rend compte qu'en fait les gens, c'est un peu ce qu'ils attendent.
Mm-hmm.
Indirectement ou indirectement d'ailleurs, tu vois. Il y a une façon de le faire, un peu comme ce que tu fais.
C'est ça. Et puis moi, je suis d'accord avec et puis je le partage aussi, cet avis de se dire que je suis pas porte-parole de telle ou telle communauté ou représentante de telle cause. Maintenant, je trouve que c'est important de s'engager pour des causes ou au moins une cause, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, effectivement, il y a plein de choses positives qui se passent, mais il y a aussi beaucoup de faits graves. Et je pense que, après, c'est vraiment mon avis. Je ne l'impose pas, mais en tout cas, je le pense, et je pense que ce serait difficile de me faire changer d'avis là-dessus, qu'on a une responsabilité, de toute façon... envers ce, parce qu'on est regardé, en fait. Donc moi, j'ai plus été effectivement inspirée par les personnes qui avaient le courage et l'audace de faire suivre leur notoriété par un engagement.
D'accord. Et du coup, c'est les causes, du coup, que tu souhaites justement incarner. C'est quoi ? C'est la cause des femmes, un peu par rapport aux violences policières aussi ?
Moi, j'ai pas envie, franchement, d'être affiliée à une cause en particulier, ouais, ou d'être cataloguée. Après, c'est vrai que je suis mieux placée pour défendre ce qui me ressemble et ce que je vis. Donc, je serais plus légitime pour parler de violences policières ou de la condition de la femme aujourd'hui dans la société que pour parler des incendies qui se passent en Australie, parce que je veux pas parler de sujets que je maîtrise pas. Mais non, en fait, moi, je pense que le seul mot qui peut me définir par rapport à l'engagement, c'est l'injustice. Moi, j'ai horreur des injustices. Donc, à partir du moment où je suis confrontée, où j'ai connaissance d'une injustice, quelle qu'elle soit, c'est très difficile pour moi de ne pas en parler.
En fait, j'ai bien fait de t'avoir que toi, parce que finalement, je crois qu'on se ressemble beaucoup.
Ah, voilà, bah...
Parce que c'est le combat de ma vie, l'injustice. En fait, depuis tout à l'heure, je me dis, c'est fou, si on m'avait mise en invité juste à côté, c'est trop, trop de connexion, là, ça. De toute façon, c'est pas pour rien. Je dis toujours, c'est pas pour rien.
Ouais, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de hasard.
Ouais, jamais de hasard. Et justement, est-ce que ça fait de toi aujourd'hui une féministe?
Alors moi, je me définis comme... Bon, attends, je vais le faire dans l'autre sens. Ouais. Pendant longtemps, franchement, j'ai eu du mal avec le mot féministe parce que ça me donnait l'impression... Donc normalement, le féminisme, c'est quelque chose qui donc défend la femme, la valeur. Mais en fait, ce qui me dérangeait, c'est que ça me donnait l'impression en fait, de me définir par rapport à l'homme. Parce que quand on dit, quand on pense au féminin, on pense au masculin, et du coup, on veut défendre les femmes, mais du coup, en voulant défendre les femmes, on se définit quand même toujours par rapport à un référentiel qui est celui de l'homme. Donc, pour moi, ça paraissait un petit peu paradoxal, et surtout qu'il y a des courants, il y a énormément de courants féministes qui sont pas d'accord sur tout. D'après les définitions que... Enfin, d'après mes recherches, je pense que ce qui me ressemble le plus, c'est le féminisme intersectionnel. Puisque moi, je prône un féminisme pro-choix, dans le sens où chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut. Et ce que partagent les femmes, en fait, c'est leur droit au respect, leur droit à accéder au même poste, au même salaire, etc.
Oui, que les hommes. Oui, quel que soit leur... religion, quelle que soit leur façon de s'habiller.
Complètement. Et puis, c'est vrai que je préfère me définir comme humaniste. Parce que, voilà, j'ai toujours du mal. Donc, je défends les mêmes idées, mais c'est vrai que ce qui me dérange, c'est ça. C'est que je me dis, on se défend, mais en se défendant, on se définit toujours par rapport aux hommes. Et je trouve que c'est...
Oui, parce que parfois, on a même l'impression que c'est devenu un gros mot d'être féministe.
Ouais, mais on me l'a reproché parce que c'est ce que j'avais dit... sur le plateau de Pascal Praud, j'ai dit ce que je viens de dire, donc je défendais un féminisme pro-choix, et puis ça m'a été reproché comme plein d'autres choses, mais en tout cas, je préfère prendre le temps d'expliquer, parce que parfois, quand on dit un seul mot, ça peut être mal interprété, et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière.
Oui. Et du coup, ça rejoint un peu un mouvement qui est né il n'y a pas très longtemps, je voulais qu'on en parle un tout petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, du modest fashion, ou de la mode pudique, en gros, c'est une tendance vestimentaire qui touche autant les femmes, et ça je tiens à le préciser, musulmanes, juives, que chrétiennes, surtout le courant évangéliste.
Et même des femmes athées qui souhaitent...
Quel que soit, voilà, c'est ça. Mais parce qu'on l'associe, parfois j'ai pu lire ou entendre des choses où modest fashion, en fait, c'est juste, on va dire, une façon fashion de porter le foulard.
Ouais, non.
Voilà, alors que c'est pas du tout ça.
Clairement pas.
Voilà, c'est pas du tout ça. Et ça se traduit, en fait, pour le coup, pour la revendication, en fait, de s'habiller comme on le souhaite. Voilà. Et avec les mêmes droits, en fait, qu'on a donné, par exemple, aux femmes qui se sont battues dans les années 60 pour porter la mini-jupe. Et c'est surtout le fait, en fait, de se réapproprier
son corps.
Son image, son corps, le vêtement, dans une société où on sait très bien que la femme de l'image est hyper sexualisée, même pour parfois des pubs qui n'ont... Surtout, enfin, moi, je le vois en publicité, qui n'ont rien à voir. Pour vendre un
morceau de quelque chose.
Ou il n'y a pas très longtemps, pour du don d'organes aussi, où... Je me suis dit, quel est l'intérêt de mettre une femme quasiment nue. J'essaie de comprendre, mais...
Ça fait longtemps que je regarde plus la télé.
Mais il y a un moment où je me suis dit, ok, d'accord, on va arrêter les pubs, en fait, c'est mieux. Et du coup, il y a beaucoup aussi de marques qui s'y sont mises de plus en plus. Et je trouve ça très positif. Bon, pour citer que, on a eu Asos, H&M, Uniqlo, Zara, etc.
Nike aussi.
Ouais, Nike. Ouais. Mais ouais, enfin, j'ai envie de te dire, Nike, oui, mais beaucoup moins en France.
Oui, bien
entendu. Parce qu'il y a eu toute la polémique avec...
Non, c'était Decathlon.
Oui, c'était Decathlon, mais c'était pour l'interdiction, entre guillemets, de le vendre justement dans les Decathlons en France. Pour le voile sportif.
Oui, du coup, ouais, ça les a impactés
ouais.
Indirectement.
Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus, un peu plus sur ce mouvement?
Bah, tu l'as très bien défini, là, ouais. C'est difficile de compléter après toi. Non, mais la modest fashion, effectivement, c'est, comme tu le disais, une manière de se réapproprier son corps. Et comme moi, je ne me permettrai pas de dicter à une femme comment est-ce qu'elle doit s'habiller aussi... ample soit-il, aussi ouais. Et aussi moulant soit-il, je pars du principe que chacune est libre de faire ce qu'elle veut, mais je pense que là où la modeste fashion fait du bien, c'est qu'on était arrivé à un moment où justement la mode dictait des codes des codes peut-être un peu trop stricts ou des codes en tout cas dans lesquels tout le monde, toutes les femmes ne se reconnaissaient pas forcément. Et je pense que c'est suite à ce constat-là que ce courant a émergé. Et effectivement, la modeste fashion, ça n'a rien de religieux. C'est,
oui.
Ce serait comme dire que les légumes, c'est pour les gens qui mangent halal. En fait, non. Les gens qui mangent halal vont acheter des légumes, les autres aussi. Donc, puis on a des... Même quand on regarde des modèles ou des mannequins, il suffit de balayer un petit peu leur... leur photographie, elles peuvent s'habiller de manière hyper sexy comme elles peuvent s'habiller de manière plutôt loose, oui, oversize. Oui. Donc c'est juste un courant supplémentaire de la mode, tout simplement, pour moi.
Ouais. Et justement, quand tu avais étudié à l'ESILV, je voulais qu'on parle un peu de ça, parce que je trouve ça fort quand même d'avoir gagné ce procès. Où tu as pu du coup faire tes études en fait avec ton foulard, ce qui en France n'était pas pour le coup quelque chose de commun et qui était pour le coup c'est ce que tu avais dit en fait, c'était ils avaient une pratique du règlement intérieur illégal.
Ouais, voilà. C'est ça en fait ce qui nous dessert et dans tellement de sphères, c'est qu'on ne connaît pas nos droits. Et du coup, quand on ne connaît pas nos droits, la personne en face de nous peut se permettre de faire beaucoup de choses sans que nous, on se rende compte qu'elle est en train de nous léser, de bafouer nos droits ou de faire des choses illégales. Quand j'ai intégré effectivement les SILV, donc juste après le bac, pendant 3 ans, je devais donc me conformer au règlement intérieur qui interdisait tout couvre-chef dans l'enceinte de l'établissement, et donc je retirais mon foulard avant d'entrer. Puis un jour, il y a un camarade qui a échangé par hasard avec une juriste là-dessus et qui l'a interpellé en fait en lui disant « Attention, votre école n'a pas le droit de vous interdire quoi que ce soit, dans le sens où la Constitution, qui est d'ailleurs, on l'avait étudiée parce qu'on avait un module de droit dans le cadre de mes études d'ingénierie, la Constitution, c'est l'équivalent de la Bible du droit en France.
D'accord.
C'est-à-dire que quand une loi passe, si elle est en contradiction avec la Constitution, elle ne peut de toute façon d'emblée pas être étudiée, votée. Et donc dans cette Constitution-là, on a une loi qui protège la liberté de culte dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que l'on soit en DUT... Parce qu'il y a beaucoup d'IUT qui jouent de ça, qui interdisent le port du foulard alors qu'ils ne peuvent pas le faire légalement, ouais. Que ce soit en IUT, que ce soit en école privée, en école publique, parce que oui, ça aussi c'est quelque chose qu'on me disait beaucoup. Oui, mais c'est une école privée. Oui, mais une école privée, elle doit quand même se conformer à la loi française. En fait, ce n'est pas parce qu'on est dans une école privée qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et voilà, ça c'est des choses qu'on a dans notre inconscient qui font... que parfois on se fait léser sans le savoir. Et donc dès que j'ai su ça, franchement, le ciel m'est tombé sur la tête parce que je pensais vraiment bien faire et j'ai très mal vécu le fait de me dire que je respectais quelque chose que je n'avais pas respecté parce que j'avais le droit en fait de poursuivre mes études avec mon foulard. Et puis j'ai contacté à l'époque le CCIF et c'est une juriste qui nous a accompagnés dans la procédure. Alors au départ, j'ai commencé cette procédure-là en avril, je crois que c'était en avril 2012, si je raconte pas de bêtises, il me semble. Ouais, c'était en avril 2012. On a commencé, donc on s'est, on était 4 ou 5 étudiantes à décider de mener ce combat-là, sachant que dans le pôle universitaire, il y avait énormément d'écoles. Il y avait une école de commerce, une école d'ingénieur, une école de multimédia. Il y avait une partie de Dauphine, une partie de la fac de Nanterre, c'était une fourmilière. Mmh. Et donc on était 5 et on a décidé de faire un recours anonyme. Parce que le CCIF nous proposait de faire un recours anonyme ou un recours nominatif par peur des représailles, parce qu'on était en avril, il y avait les jurys de fin d'année au mois de juin.
Okay.
Et parfois, on avait des modules qui pouvaient être validés en jury si on n'atteignait pas les notes qui étaient attendues. Donc on a fait un recours anonyme qui n'a eu aucun retentissement. Pas de réponse, pas de retour, rien du tout. Et donc à la rentrée, en septembre, on a décidé de faire un recours nominatif.
D'accord.
Cette fois-ci, tout en sachant qui on était. Et j'étais pas à l'école à ce moment-là parce que j'étais en stage. Donc j'ai fait un stage à Barcelone de septembre à novembre. Et ensuite, je suis rentrée en France et j'ai fait un autre stage de décembre à janvier, puisqu'on devait faire 5 mois de stage. Et en janvier, au moment de retourner à l'école, la situation n'avait toujours pas bougé. C'est-à-dire que la juriste du CCIF échangeait avec la responsable juridique du pôle universitaire qui lui disait « Oui, effectivement, ce que nous faisons est illégal, ne vous inquiétez pas, nous allons changer le règlement. »
Mais ça n'a pas bougé.
Et ça ne bougeait pas. Et moi, c'était impossible en fait, pour moi de retourner là-bas et de retirer mon foulard alors que je savais pertinemment que j'avais le droit de le garder. Donc j'ai décidé de démissionner et de continuer autre part. Donc j'ai envoyé ma lettre de démission et je me suis inscrite en rentrée décalée. Dans le seul truc qui faisait une rentrée décalée que j'ai trouvé, c'était un DUT GEA. D'accord. Donc en fait, je passais de 4e année en école d'ingé à 1ère année d'IUT, de DUT à l'IUT de Saint-Denis. Parce que je voulais m'inscrire quelque part et parce que j'avais peur de devoir rembourser en fait la bourse à la fin de l'année si jamais le Crous apprenait que j'avais démissionné. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 2 semaines de cours à l'IUT où j'étais franchement limite en dépression déjà par rapport au changement.
Ouais.
Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le DUT par exemple GEA à Saint-Denis et le DUT GEA à Paris, ça n'a strictement rien à voir, c'est une réalité. Moi, quand je suis arrivée en cours de maths, j'ai été choquée parce que le premier exercice que le professeur nous avait fait, c'était un exercice avec une poule qui pond des œufs tous les quarts d'heure et il fallait calculer combien d'œufs elle aurait pondu au bout d'un certain temps. Donc, j'étais juste. Okay. Non, mais j'étais juste sidérée, quoi.
C'est choquant, ouais.
Et il y avait tellement de choses, et comme je disais, j'ai horreur des injustices, donc je me prenais ça en plus en pleine face, et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Les pauvres étudiants qui vont sortir de ce cursus seront clairement défavorisés par rapport à... J'ai discuté avec une amie qui a fait un DUT GEA à la Sorbonne, la rentrée, c'était des intégrales.
Ouais.
C'est te dire le décalage. Et donc j'ai été contactée au bout de 3 semaines, je crois, par mon professeur, un de mes professeurs que j'aime beaucoup, qui a pris la décision de refuser ma démission, ce qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de communication en fait, entre le pôle juridique et les professeurs.
D'accord.
Donc les professeurs n'avaient aucune idée de ce qui se passait juridiquement derrière. Et l'école essayait d'étouffer ça parce qu'ils espéraient pouvoir continuer à agir comme ça illégalement. Et à l'époque, on a une professeure qui avait accepté gentiment de partir en éclaireur. Pour nous, elle avait discuté avec la responsable de la direction des études qui lui a dit, mot pour mot, oui, on n'a pas le droit de faire ça, on le sait, mais si on ne fait pas comme ça, chacun viendrait comme il voudrait.
Mais il est où justement le problème ?
C'est hyper grave, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc il m'a convoquée, donc je suis venue, je l'ai vue devant l'école parce que je ne voulais pas entrer. Et je ne lui ai pas dit le motif de ma démission parce que j'avais peur que ça porte préjudice aux quatre filles qui continuaient de faire la procédure. Et je lui ai expliqué que c'était pour une raison personnelle et que j'avais bien réfléchi et que je ne reviendrais pas. Donc il a quand même refusé. Il me dit, c'est une lourde décision, il te reste moins d'un an avant d'accéder à ton diplôme. Je te donne une semaine, c'était un vendredi. Il m'a dit, vendredi prochain, tu me fais un mail et tu me donnes ta réponse vraiment définitive et tu prends le temps de réfléchir. Donc je suis sortie, j'ai appelé la juriste et j'avais pas dit à la juriste que j'avais fait ma démission, que j'avais abandonné. Elle a été hyper touchée, elle m'a dit c'est pas possible, on va y arriver, faut pas perdre espoir, il faut continuer. Et donc elle a passé la semaine à passer des coups de fil et elle a discuté avec le conseil régional qui donc subventionne les écoles privées.
Ouais.
Et en fait, donc elle a discuté avec eux et le vendredi suivant, mais j'étais dans le bus, je me souviens, j'étais en train de rédiger mon mail pour donc dire bien confirmer que je démissionnais, que j'allais plus revenir, et je reçois son coup de fil, le coup de fil de la juriste, et elle me dit c'est bon, à partir de lundi le règlement va changer. Le conseil régional a appelé l'école et leur a dit vous respectez la loi ou on vous coupe toutes les subventions. Et donc le lundi suivant, j'ai pu intégrer l'école. Avec mon foulard, et puis personne m'a rien dit. J'ai pas eu droit au vigile à l'entrée qui me rappelait qu'il fallait le retirer. Donc ça s'est passé comme ça.
Est-ce que ça rejoint du coup le problème qu'on a avec le terme de laïcité en fait en France ?
Ben, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui parlent de laïcité alors qu'elles ne comprennent même pas ce que ça signifie vraiment. Et c'est pour ça que j'insiste souvent en disant que, et je l'avais dit sur le plateau de Pascal Praud, moi j'aime beaucoup la phrase de Socrate qui dit « la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas ». C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, il faut accepter de ne pas pouvoir parler de tout, de ne pas maîtriser tous les sujets. Moi, quand j'assiste à une discussion et qu'il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai aucune gêne à dire que je ne comprends pas, que je ne connais pas un terme ou je ne sais pas, ou quelque chose dont on est en train de parler. Et tout ce qui se passe en fait en France, tout le débat, tous les débats qu'il y a autour des religions, c'est en contradiction avec la laïcité, puisque le principe même de la laïcité, c'est de dire que l'État ne se mêle pas des religions en fait. Donc, ceux qui alimentent ces polémiques-là ne défendent pas la vraie laïcité, de toute façon.
Mais est-ce que parfois c'est toujours la faute des gens à qui on donne la parole et des médias ? Est-ce que c'est pas aussi parfois un peu de notre faute de pas vouloir s'informer là-dessus, d'avoir l'initiative de se dire que peut-être qu'on dit ça, mais finalement, en fait, la curiosité et comme tu disais, accepter que parfois on connaît pas, on n'est pas au fait de tout, mais de prendre cette initiative-là.
De toute façon, moi je suis convaincue que quand tu as un problème, c'est multifactoriel. Tu peux pas dire que la seule cause, c'est la cause A ou la cause B. Tu as un concours de circonstances qui fait que. Maintenant, effectivement, je pense qu'on a chacun vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, j'ai la responsabilité vis-à-vis de moi-même de me documenter pour ne pas raconter, pour ne pas croire de bêtises et donc, par conséquent, ne pas raconter de bêtises, tout comme toi, tout comme tout un chacun. Sauf que la responsabilité des médias, des politiques, etc., elle est supérieure. Pour moi, c'est pas comparable, en fait. Les médias, pourquoi est-ce que quand il y a des campagnes de sensibilisation sur des maladies, sur des dangers, on passe par les médias ?
Oui.
Parce que le rôle des médias, c'est celui-ci. Donc, de la même manière, aujourd'hui, moi, je considère que les médias ne remplissent pas leur rôle et que c'est même contre-productif, puisqu'aujourd'hui, c'est de la désinformation, c'est hyper grave d'entendre des personnes qui prennent la parole dans des médias et a fortiori quand c'est des responsables politiques qui sont donc censés représenter la loi, l'État et le droit finalement, tenir des discours contradictoires avec ce que dit la loi. Pour moi, c'est plus grave en fait parce que ça a une plus grande portée et les dégâts sont plus grands. Si moi, je ne comprends pas un truc, à la limite, je vais induire en erreur mon entourage. Mais si c'est les médias qui font ça...
Oui, c'est beaucoup de monde. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas aussi cette responsabilité de choisir les médias
Ah si, si, bien sûr. Ah si, si, on a cette responsabilité. Mais après, je pense que dans certains milieux, c'est compliqué. Tu vois, moi, je discutais la dernière fois avec un ami qui est venu à Paris pour faire ses études, mais qui a, à la base, a grandi en Provence. Et quand tu as des personnes d'un certain âge qui vivent dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de Français d'origine, on va dire, étrangère, si on peut dire ça comme ça, eux, leur seul vecteur d'information, c'est la télé.
C'est la télévision, ouais.
Donc, est-ce que tu vas dire à des, je sais pas, à des retraités au fin fond d'un village de France, écoutez pas la télé, allez sur Instagram, allez sur, voir sur Facebook, voir les vidéos de Combini ou de Brut, c'est compliqué.
Donc, ouais, il y a même un travail d'éducation, enfin, en tout cas, je trouve, hein, sur la question justement des médias et d'apprendre à s'informer.
Complètement.
Ne serait-ce qu'avec les. Parfois les fake news ou ce genre de choses.
Bien sûr.
Et qu'on ne fait pas assez et très très jeune. De se dire qu'il y a. Parce qu'on regarde. Enfin, on tacle souvent les médias qui font le plus d'audience avec cette information spectacle, sans se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres médias aussi qui font tout simplement leur boulot, mais qui n'ont pas. Enfin, ou en tout cas, on ne leur donne pas la visibilité qu'ils méritent.
Ouais. Ouais, je suis d'accord.
Et du coup, est-ce que tu as des projets futurs ?
Alors actuellement, je suis en train de travailler sur mon projet de consulting et de coaching en communication. Pour moi, je veux vraiment le développer. On développe aussi par l'éloquence, donc le concours qu'on a créé en 2019. Et mon but, c'est vraiment de développer ces deux axes-là. Donc mon projet professionnel avec tout l'accompagnement que je propose autour de la communication et ou de l'organisation auprès des particuliers et des professionnels. Et à côté de ça, via mon association, de développer le concours d'éloquence. Et moi, j'aime pas trop faire des plans sur la comète. Je préfère vraiment réfléchir à court, moyen terme. Et une fois que j'aurai atteint le développement de ces deux axes-là, le développement que je souhaite, en tout cas que j'espère, je réfléchirai à d'autres projets.
Donc tu réfléchis pas à ta retraite ?
Non, clairement pas. C'est pas comme tu disais tout à l'heure, on sait pas si on sera là d'ici là. Donc je préfère que les prochaines semaines et les prochains mois soient comme je l'ai envie plutôt que de subir dans l'espoir d'une retraite que je ne sais pas si.
On sait même pas si on va l'avoir.
Voilà, c'est ça, clairement.
Et du coup, bah justement, mais là je vais te demander de te projeter un tout petit peu dans 10 ans. Et où est-ce que tu te vois ? Où est-ce que, en tout cas, tu aimerais te voir ?
Franchement, j'ai toujours eu du mal avec ces questions. Parce que
ça, c'est toujours la question difficile que je pose. Ouais. Mais c'est une certaine façon de ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux, quoi.
Franchement, je ne sais pas trop. C'est grave compliqué. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que... en fait... J'espère que dans 10 ans, il y aura beaucoup plus de personnes à qui on puisse s'identifier, beaucoup plus de personnes inspirantes, parce que ce que j'ai dit en fait après mon passage télévisé, c'est que je recevais forcément beaucoup de messages. On me disait, quand est-ce que tu retournes sur les plateaux ? Et je disais que un de mes objectifs en faisant ça, c'était de prouver que c'était possible et que n'importe qui pouvait le faire et que n'importe qui pouvait faire de toute façon n'importe quoi. Donc je sais pas, je suis désolée, je sais pas si la réponse te convient.
C'est déjà un bon élément.
Mais
réponse,
ouais, ça. Je sais pas où je serai dans 10 ans et franchement c'est très compliqué pour moi de me projeter. C'est toujours difficile comme question, mais en tout cas d'un point de vue social et sociétal, si on atteint en tout cas ce point-là, je pense qu'on aura vraiment bien avancé.
Super. Et où est-ce qu'on peut te suivre si on a envie de te suivre sur les réseaux sociaux ?
Sur les réseaux sociaux, bah, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, je suis sur Twitter. Après, c'est vrai que je suis plus active sur Instagram que sur les autres. Mais j'essaye en tout cas de répondre à un maximum de messages que je reçois.
C'est du boulot hein, de répondre aux messages.
Ouais, mais j'y tiens. Et pour la petite anecdote, je suis passée le 21 octobre du coup sur CNews. Et le 21 décembre, j'ai terminé de répondre à tous les messages que j'avais reçus sur Instagram.
Ah ouais, un mois.
Et sur Facebook et Twitter, j'ai pas terminé, mais je vais le faire. C'est mon objectif et je vais l'atteindre.
Et t'es passé de... Attends, parce qu'on a vu l'évolution aussi du nombre d'abonnés. T'es passé de combien à combien ? Parce que Moi, j'ai vu, j'ai fait, et j'aimais trop, c'était comme un épisode. Je me disais, bon, aujourd'hui, c'est con. Et j'étais trop contente. Je me disais, waouh, génial et tout. Et t'as même un compte vérifié maintenant.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu la certification là, il y a quelques semaines. Alors, c'est vrai que c'est fou parce que je suis passée de 500 abonnés à plus de 90 000 abonnés.
Ouais.
En une semaine, enfin, même pas en quelques jours.
Non, parce c'était que... en quelques jours.
Non, c'était en quelques jours, ouais. Ouais, c'était en quelques jours, c'était peut-être en 2-3 jours, ouais, juste après.
Et du coup, t'as été inondée de messages, quoi. C'est...
Ouais, j'étais vraiment inondée de messages. C'était vraiment beaucoup de messages parce que j'ai mes proches qui s'inquiétaient. « Safa, t'as pas trop reçu de, de messages de la fachosphère, ou de messages haineux. » Et franchement, 95% des messages que je reçois, c'est des messages hyper bienveillants. Ouais.
Et justement, t'as réussi à faire abstraction pas de, des messages négatifs que tu as pu recevoir
Bah en fait, moi, je franchement, j'ai pas de difficulté à faire abstraction du négatif.
Non, parce qu'il y en a qui le vivent mal.
C'est vrai que c'est effectivement, et moi j'essaye de... Parce que je pense savoir pourquoi je suis comme ça, mais du coup en fait moi j'ai subi du harcèlement scolaire quand j'étais en primaire, et ma grand-mère a vraiment fait un gros travail psychologique sur moi. Et bah, du coup, c'est une des personnes qui m'inspire pour revenir à la question de Tala. Mais franchement, avec ses paroles qu'elle me répétait tous les jours, elle m'a aidée à me forger une personnalité. Et donc, très tôt, j'ai appris à faire abstraction, mais totale, de tout le négatif qu'on pouvait me dire. Donc, j'ai appris ça très tôt, mais je suis consciente qu'il y a des gens pour lesquels c'est difficile. Et il m'est même arrivé de recevoir des messages de personnes qui ont traversé des étapes dans leur vie où justement elles ont été entre guillemets mises dans la sauce, comme on dit, comme on dit sur Twitter. Et c'est vrai que j'aimerais aider, mais je suis en train de réfléchir à comment, concrètement, parce que je peux aider en parlant, en rassurant, mais moi j'aime bien tout ce qui est concret, donc mettre en place peut-être des outils ou des techniques pour... faciliter ce travail-là, parce qu'étant donné que moi j'ai appris à le faire très tôt à cause d'un épisode que j'ai vécu, c'est difficile d'analyser en fait, de prendre du recul et de me dire comment j'ai réussi à le faire. Mais je suis convaincue en tout cas que la parole et la parole répétée, elle a un impact très très fort.
Positif, ouais.
Ou négatif. C'est comme.
Mais c'est. Enfin, en fait, les mots. Créer des mots, mais les mots aussi guérissent les mots.
Ouais, c'est vrai. C'est très joliment dit. C'est très joliment dit. Mais effectivement, tu vois...
Livre.
Il faut.
J'ai toujours rêvé d'écrire un livre, je sais juste pas encore sur quel sujet.
Bah, il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses, et c'est ce que je dis à chaque fois. Alors, quand j'encontre une personne qui rêve d'écrire un livre, ou une personne que j'encourage à écrire un livre, parce que je trouve qu'elle a plein de choses à raconter, c'est de créer un dossier en fait, dans ses notes. Et
moi, je veux écrire sur les gens.
Petits paragraphes, en fait.
C'est écrire sur les gens.
Mais ce serait...
C'est pas... Top. Moi, j'ai rien à raconter. Je sais pas...
On a tous... Non, je peux pas...
Oui, mais dans le sens où, aujourd'hui,
ça, c'est ton
j'ai
côté
pas envie...
modeste, en fait.
Non, moi, j'ai pas fait grand-chose. Mais c'est plus ce côté où j'ai très envie de raconter les gens. Tu vois, c'est ce que j'essaie de faire avec mon émission de radio, mais aussi par le biais de l'écriture.
Comme
tu parlais de la bibliothèque et des livres... Moi, j'étais fascinée par ça, mais et de me dire, mais un jour, j'aimerais trop aussi qu'il y ait des petites filles ou des petits garçons qui lisent et qui se disent, ah, je sais pas, ça peut éveiller les consciences ou leur donner envie. Et leur, ouais, on verra, hein, qui sait. Hein. Peut-être dans 10 ans.
Dans
voilà,
10 ans.
C'est mon projet
voilà,
dans
c'est
10
ton
ans.
Projet dans 10 voilà. ans.
Mais merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi, Amina, de m'avoir invitée. C'était un plaisir.
Un plaisir partagé. Et vous pourrez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux et sur le site de Radio Agora. Je voulais aussi remercier Catherine.
Merci Catherine.
Et suivez, sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur ça.va.parler. Merci beaucoup.